Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour RDWA sur 107.5 FM et www.rdwa.fr. Bienvenue dans une émission Dialogue citoyen Europe, tu m'entends? Un projet initié par la représentation en France de la Commission européenne, associé à la Fédération nationale des radios associatives, le CNRA, qui ont mis en place un débat citoyen dans l'optique de récolter des avis de citoyens sur l'Europe. Celle-ci, semble-t-il, ne passionne plus les Européens. Les taux d'abstention aux dernières élections européennes et la montée des nationalismes montrent un éloignement progressif des Européens sur ce projet qui pourtant lui a apporté la plus longue période de paix interne depuis des siècles. Le vieux continent, forgé par une histoire millénaire, a essayé, après la Deuxième Guerre mondiale, de se constituer politiquement avec l'Union européenne, dans le but de consolider la paix à travers des initiatives économiques et en déléguant l'exercice de certaines compétences à des organes communautaires. Ce débat radiophonique, organisé sur RDWA comme dans une vingtaine d'autres radios associatives en France, a pour but de collecter la parole de citoyens lambda sur la perception qu'ont les citoyens de l'Europe, en mettant l'accent surtout sur l'aspect économique de son action. Dans le studio, avec moi pour parler de ce sujet qui nous concerne tous, Isabelle Bizoire, présidente de DIWA Jumelage et salariée dans le développement local, Anna Gasquet, salariée du CIED, Centre d'information Europe Direct, qui a collaboré à la réalisation de cette émission, Claude Verret, journaliste et responsable associatif, Jean-Marie Verdet, agriculteur, et Franck Le Priol, entrepreneur dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. L'émission sera lancée par un micro-trottoir de 7 citoyens qui, dans leur ensemble, véhiculent des idées pas franchement positives sur l'Europe. Écoutons donc ce micro-trottoir.
Alors l'Europe, je trouve que c'est un très bon outil, mais qui a été perverti par des lobbying et des grosses industries, et qui du coup ne travaillent pas pour les citoyens, mais plutôt pour des multinationales. Par exemple, des gens qui ne veulent plus aller dans les Intermarchés et tout ça, et qui décident de faire des jardins, c'est des très bonnes alternatives de décroissance. Mais on est obligé un peu de lutter contre l'Europe, parce qu'il y a des réglementations qui émanent de l'Europe. Il y a un exemple très concret au jardin de l'Aube. Il y a un canal qui alimente ces jardins via la Méros, une rivière. Et donc la réglementation européenne a changé depuis peu sur cette rivière, ce qui fait qu'ils ont décidé de relever le débit d'étiage pour la préservation de l'environnement. Sauf que du coup, en relevant le débit d'étiage, ça fait moins d'eau dans le canal, donc moins d'eau pour les jardins pour pouvoir cultiver le reste de l'année. Donc ça nous empêche d'avoir une production alimentaire autonome. Ça ne prend pas en compte certaines réalités effectivement locales et c'est des règles un peu arbitraires.
L'Europe, c'est loin et ils sont loin de nous. Et au quotidien, on sent plus une espèce de disparition non, du libéralisme et du lobby d'entreprise.
Voilà les traditions comme le bouilleur de cru. Voilà, ça, c'est une réforme européenne qui interdit à quiconque de faire de l'alcool. Voilà, c'est des traditions ancestrales. Je ne vois pas en qui ça peut déranger que des gens se fassent bouillir leurs vieilles pommes pour avoir leur eau de vie.
Moi, ce qui me gêne à l'Europe, c'est les politiques d'austérité qui sont imposées au pays, toujours la course à la croissance. On a des pays qui sont déjà tous surendettés, qui sont dans des pertes de dynamique, il n'y a plus de boulot. Et derrière, on a l'Europe qui voudrait nous tirer vers une croissance que moi, personnellement, je trouve utopique. Je pense qu'on aurait peut-être à gagner à un moment à sortir de l'Europe. Enfin, ça, c'est mon opinion. Alors, je tiens à l'euro, à la monnaie unique. Mais après, les politiques économiques dictées par l'Europe, j'aurais plutôt, moi, tendance à revenir à un protectionnisme un peu plus national sur la gestion économique.
La politique agricole en Europe, bah, c'est inégalitaire selon les pays, selon si on sait aller chercher les subventions ou pas. En France, à première vue, on sait aller les chercher. Après, selon si c'est pour l'agriculture céréalière ou les éleveurs et les maraîchers, les subventions ne sont pas les mêmes. Ça tue un peu notre agriculture, je pense, moi, en France et en Europe. Voilà, il n'y a plus de petits agriculteurs, on ne les soutient pas. On aide les gros qui vivent essentiellement des subventions et je pense que ce n'est pas très bon pour la société en général.
C'est le capitalisme, l'économie de l'Europe en ce moment. Et c'est pas facile, quoi, parce que ça veut dire aussi la fermeture des frontières, par exemple, et du coup, ce fameux espace Schengen qui, en fait, permet de faire qu'on habite dans une forteresse, parce que là, on habite en Europe, et du coup, c'est quand même assez tragique. Chaque année, il y a des centaines de personnes qui meurent en essayant de venir nous rendre visite, quoi. Et ça donne une piètre image de ce qu'on appelle Europe aussi.
C'est intéressant quand même de réfléchir ensemble, entre pays européens, parce que les États-Unis, parce que la Chine. Donc je trouve ça intéressant qu'on puisse porter quelque chose ensemble, en communauté européenne, des projets et le proposer dans ce monde aujourd'hui qui échange beaucoup au niveau économique et qu'on ait cette force-là de proposition. Alors aujourd'hui, c'est au service d'un idéal peut-être un peu trop libéral et un peu trop peut-être, on pense aux armes, aux rafales qui se vendent à droite à gauche. Et peut-être que l'énergie n'est pas mise là où il faut. Mais en tout cas, je trouve que c'est l'échelle, la dimension européenne est intéressante pour essayer de proposer de belles choses à d'autres régions du monde et de sentir qu'on a les moyens, on a la capacité de faire des propositions au même titre que les États-Unis, que la Chine. Voilà, si on y va tout seul, on n'a aucune chance que nos projets puissent être portés, alors qu'à l'échelle européenne, ça peut être intéressant. Et puis, il y a aussi une histoire, une culture commune qui est intéressante à valoriser ensemble.
L'Union européenne, c'est un montage pour faire une Europe avant tout économique. Cette Europe économique, elle n'a qu'un but, hein, c'est de revenir sur les grandes choses qui ont été faites, à savoir le droit du travail, c'est de privatiser des services publics. Oui, et puis l'Europe, c'est aussi les référendums. Maastricht, on nous disait, si vous votez contre, vous êtes pour la guerre. On a vu ce que ça donnait. Et puis le dernier référendum, on a voté contre, il s'applique. C'est pas une Europe démocratique, c'est sûr.
L'Europe, c'est un échelon politique et administratif qui a été créé en plus de tous les autres, qui pour moi ne simplifie pas la vie des gens, parce que les échelons se créent toujours par en dessus, donc toujours de plus en plus loin des gens. Alors qu'on devrait essayer de rapprocher la capacité de décision de chaque individu, de chaque citoyen. À chaque fois, il y a un échelon supérieur qui se crée, qui est de plus en plus inaccessible. Donc l'Europe véhicule un certain nombre d'idées qui peuvent être fort louables, etc. Mais dans la réalité, ces échelons-là de décision, ils sont accessibles uniquement à des organisations très puissante du type multinational ou gros syndicats, gros partis politiques, etc. Ce qui donne que l'Europe, pour la plupart des gens et pour moi, c'est quelque chose qui va venir intervenir dans ma vie, sur lequel j'ai quasiment aucune prise. Voilà.
Voilà, bon, vous venez d'entendre ces citoyens qui s'expriment. Je vous avais prévenu, c'est pas très positif comme avis général, je dirais. Ça vous inspire quoi comme réflexion alors ?
Oui, il y a beaucoup de matière dans tout ce qu'on vient d'entendre, avec des choses qui effectivement peuvent avoir un semblant de fondement ou en tout cas de fumée, mais aussi des choses qui sont complètement à côté de la réalité de ce qu'est l'Europe. D'abord, quand j'entends ça, ma première réaction, c'est que le déficit véritable de l'Europe, ils ne savent pas ce qu'a été le dispositif Biovallée pour nous en termes de territoire, qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'un CDRRA ou un LEADER ou un FEDER ou un FEADER ou un PSADER, même, enfin tous ces éléments qui effectivement peuvent paraître pour le commun des mortels complètement aberrants, mais qui sont des réalités qui amènent quand même un outil économique et politique au service du développement du territoire. Donc, à mon sens, d'abord, la première réaction, c'est quel déficit de communication, quoi. Donc, je comprends mieux l'objet de nous motiver à faire cette émission.
Rien que pour compléter ce que vient de dire Franck, là, je regarde, les fonds FEDER, c'était 334 millions d'euros en Rhône-Alpes. Le FSE, ce sont toutes des subventions européennes, c'était 359 millions d'euros pour la région Rhône-Alpes. Le FEADER, c'est 699 millions d'euros pour la région Rhône-Alpes, et je pourrais en lister de nombreuses comme ça. Donc, en réalité, il y a un retour énorme de la part de l'Europe sur l'emploi, sur l'économie, sur l'aide aux entreprises. Donc, on ne peut pas accuser l'Europe de capter la manne financière et les impôts des citoyens, par exemple. Tout revient, et la France est bien placée, parce que, par exemple, en matière agricole, la France est le pays d'Europe qui touche le plus de retours. À peu près 50% de ce qui est alloué à la France est alloué à la PAC. Et donc, contrairement à ce qu'il est dit dans l'interview, Je pense personnellement que s'il n'y avait pas eu les financements européens d'aide aux agriculteurs, on aurait à peu près plus d'agriculteurs dans nos zones de montagne. Je pense particulièrement aux éleveurs. Les filières seraient dramatiquement tétanisées dans nos territoires. Et la PAC, même s'il y a une inégalité flagrante, hein, c'est stipulé, et c'est vraiment vrai, les agriculteurs, s'il y a encore 600 000 agriculteurs, c'est grâce aux politiques agricoles et d'aide aux agriculteurs.
Alors on en revient à ce que disait Franck, c'est-à-dire que les gens semblent mal informés, ce qui expliquerait aussi leur mauvaise perception de l'Europe. Mais le sujet est de voir comment cette Europe est perçue chez nos citoyens. Hein.
Moi, ce que j'ajouterais quand même par rapport à une clarification par rapport au discours, c'est qu'on entend souvent l'Europe a mis en place, l'Europe a décidé, les réglementations européennes. L'Europe, c'est quelque chose. L'Europe, c'est décidé par qui ? C'est décidé par les chefs de gouvernement des différents pays européens. C'est ça l'exécutif de l'Union européenne, plus le législatif qui est le Parlement européen, qui est représenté par les personnes que chacun sur les territoires nationaux et régionaux élit pour envoyer au Parlement européen. Voilà, donc à la fin, c'est pas l'Europe qui, c'est nous en tant que citoyens et représentés par nos eurodéputés ou par nos chefs de gouvernement, prenons ces décisions.
On ne peut pas parler de politique de l'Europe, à mon sens, dans le sens où il n'y a pas de gouvernement européen. Et ça se traduit justement, on ne peut pas reprocher la politique de l'Europe, puisqu'en fait elle est appliquée par les gouvernements européens, mais pas par le gouvernement européen, puisqu'il n'y en a pas. Donc du coup, à mon sens, effectivement, on souffre d'une méconnaissance des dispositifs européens, qui a une carence de communication et qui a sans doute un éloignement géographique, mais qui a peut-être aussi, pour certaines instances territoriales locales, une rétention de l'information, en tout cas une carence aussi dans la communication, à informer les citoyens de ce qu'il est possible de faire. Mais par contre, moi je vois en tant qu'entrepreneur à titre personnel, quand on se donne la peine d'aller chercher l'information, on trouve les ressources et on trouve effectivement tous les dispositifs qui existent et on peut les articuler, les activer en fait pour soi, pour son entreprise, avec des structures d'appui qui sont locales ou régionales. Donc il y a à mon sens vraiment une grosse carence dans la communication.
Alors moi ce que j'avais envie de soulever, c'est que dans tous les témoignages qu'il y a eu, on parle essentiellement du volet économique de l'Europe. Alors je ne sais pas si c'est un biais, est-ce que c'était dans les questions, est-ce que c'était orienté, parce que quand même, bon, ok, l'Europe c'est une politique économique, mais c'est autre chose que ça. Elle s'est construite surtout par cet élan de l'Europe économique, mais peut-être qu'il y a une grosse demande pour que l'Europe soit autre chose qu'une Europe économique.
Je pense que les citoyens le déplorent d'ailleurs. Mais oui, tout à fait, pour répondre à ta question, il y avait effectivement une option sur la perception des actions économiques de l'Europe. Mais on est aussi libre d'en sortir.
Oui, moi, ce que j'aime dans l'expression communauté européenne, c'est le mot communauté. Parce que c'est un mot, justement, qui amène, au-delà des questions économiques, d'autres notions. Et qui sont des notions de partage d'une identité et surtout d'échange, de rencontres, de relations, de maillage entre des pays qui, rappelons-le, sont quand même de plus en plus nombreux au sein de la communauté européenne. Entre le nombre que nous étions au tout début et celui où nous en sommes aujourd'hui, il y a eu un élargissement que je trouve extrêmement intéressant et porteur. Revenir au protectionnisme me semblerait une réduction culturelle évidente, de même qu'économique d'ailleurs. Donc aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de vouloir peser par rapport à d'autres entités dans ce qui est devenu une économie mondiale, mais je pense qu'il s'agit bien aussi de partager un certain nombre de valeurs et peut-être une vision du monde de demain qui repose, à mon avis, sur des rencontres, des échanges, de la compréhension et de la reconnaissance de l'autre. Et l'Europe le permet.
Le permet, mais est-ce compris comme message ? C'est bien la question. Parce que Franck, tu disais tout à l'heure que toi, si tu cherches en tant qu'entrepreneur des ressources sur l'Europe, tu les trouves. Mais quelqu'un qui n'a rien à demander à l'Europe parce que c'est un citoyen lambda, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit des échelons, comme le disait très bien quand même le dernier témoignage. Il voit des lobbies qui agissent à Bruxelles et il ne voit rien. Il voit rien de l'Europe.
Ça, je comprends tout à fait la remarque, si tu veux, qui est faite par les personnes qu'on a entendues sur la collecte des informations en micro-trottoir. Au-delà, je pense qu'on a tous le choix d'être acteur ou d'être spectateur dans nos vies. Et c'est la même chose, à quel que soit l'échelon. Il suffit de voir le taux d'abstention en fait, qu'on a sur l'ensemble des élections et pas uniquement au niveau des élections européennes. On voit qu'il y a une désaffection en fait, et un désamour avec le politique. Ce qui s'explique très bien au travers de tout ce qui est vécu, de tous les scandales, de l'impuissance qu'on peut constater sur les solutions politiques qui peuvent être apportées. Mais est-ce qu'on choisit d'en rester spectateur et de se dire « bah oui, mais c'est la catastrophe » et de ne rien faire, ou est-ce qu'on choisit d'être acteur et d'aller à la pêche aux informations ? Moi, c'est ça que je répondrais, si tu es à tous les gens qu'on a entendus, dans le sens de se dire « bah c'est bien effectivement de dire « c'est pas terrible dans le jardin du voisin », mais quand on voit qu'il est un petit peu enherbé, autant prendre sa binette et aller lui donner un coup de main pour le désherber, quoi. » Et je pense que c'est ça la démarche qu'on doit avoir, c'est-à-dire se bouger, retrousser nos manches et y aller. Je pense que tout ce qui est reproché à l'Europe, c'est... On lui reproche en fait quoi ? De ne pas avoir de gouvernement, de ne pas être en capacité de décider au travers de tout ce qu'on a entendu. Ce qui pose des vraies problématiques, c'est Schengen. Comment est-ce qu'on peut faire pour avoir une politique d'immigration cohérente avec chaque pays qui a son propre fonctionnement et son propre positionnement là-dessus sans qu'il y ait une directive d'un gouvernement ? Donc ça, c'est déjà une première problématique. Mais c'est la même chose au niveau économique. Pour l'instant, elle intervient avec la Banque Centrale Européenne pour essayer de relancer un petit peu l'économie avec les moyens qu'elle a. Mais il n'y a pas de gouvernement véritable, il n'y a pas de politique économique européenne. Il faut arrêter de parler de politique économique européenne. Il y a des tentatives d'impulser de l'économie dans les différentes nations. Mais ce sont les chefs d'État et les députés européens qui font des lois et qui font de l'application en fait, de ces dynamiques-là. Donc, mais ça, c'est pareil. Moi, je pense que c'est la désaffection et le désamour de la politique qui fait, comme en plus l'Europe est très loin, que du coup, on ne s'investit plus et qu'on a tendance effectivement à se dire que c'est un petit peu le bouc émissaire de tout ce qui nous arrive, mais ce qui est assez facile et ce qu'on peut retrouver à d'autres niveaux sans vouloir trop rentrer dans une dimension politisée, mais il suffit de voir en fait l'amour effectivement des nationalismes ou des populismes qui est en train de prendre naissance. Elle est toujours arc-boutée sur le bouc émissaire qui est l'autre. Et ça, moi, je trouve ça extrêmement dangereux.
C'est rigolo parce qu'avant 1789, on avait un peu le même scénario au niveau des provinces en France. Chaque province revendiquait tant son identité que sa capacité à se gérer. Et puis, il a fallu la révolution de 1789 et une centralisation que certains ont trouvé abusif, d'ailleurs, sur les territoires. Mais finalement, aujourd'hui, il n'y a plus de guerre entre Grenoble et Lyon, entre Lyon et Auxerre, entre Auxerre et Reims, ce qui était le cas autrefois. Aujourd'hui, on arrive à un scénario, et je pense qu'Isabelle avait raison de marquer que le projet européen, même s'il a pris la tournure et la déclinaison économique, c'est d'abord un projet quasiment une vision civilisationnelle, dans le sens que les valeurs impulsées par la Révolution française, la liberté, l'égalité, la fraternité, la démocratie, la justice et la paix, peuvent être déclinées au niveau d'un continent et peut-être à un certain moment déclinées au niveau d'une planète. C'est à vérifier. Ce n'est pas le cas en ce moment, en tout cas. Mais pour moi, en tout cas, si aujourd'hui ça ne marche pas, ce n'est pas parce qu'il y a trop d'Europe, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'Europe. On est plutôt dans ce scénario-là. C'est ce que disait Franck. Aujourd'hui, l'Europe est incapable en matière économique de prendre une décision commune. Elle est incapable de prendre une décision commune en matière de défense. On l'a vu pour le Mali. Elle est incapable, dans une multitude de mesures, de prendre des mesures. Et quand elle en prend, souvent, il faut que, pour la déclinaison par pays, il y ait l'accord du pays en question. Surtout en matière environnementale, en matière gaz de schiste, en matière d'OGM et tout ça. Donc il y a un défaut d'Europe. Il n'y a pas une gouvernance aujourd'hui en matière européenne. Et c'est là qu'il y a un problème. On veut avoir cette vision, mais on ne se donne pas les outils et les moyens. C'est plutôt une carence d'Europe.
Pour rebondir sur l'élément communication, en effet, c'est vrai qu'il manque une connaissance sur le territoire. L'Europe paraît loin, elle est souvent assez loin, à Strasbourg, à Bruxelles ou éventuellement auprès des ministères, c'est là qu'on en parle. Mais il y a quand même des réseaux, notamment le réseau Europe Direct, qui amène l'information sur le territoire. Il y a à peu près 500 centres comme ça qui sont distribués de partout en Europe. Il y en a 54 sur le territoire français et dont 4 en région Rhône-Alpes, entre donc Saint-Étienne, Grenoble, Lyon et puis tout dernièrement, depuis le début de l'année, un à Valence pour le territoire sud Rhône-Alpes, Drôme-Ardèche. Et ça, c'est une manière, en ayant des points, des guichets d'information locaux, de ressources pour aller chercher l'information sur les opportunités de financement, sur les opportunités de partenariat avec d'autres pays européens pour mener un projet avec des comités de jumelage, pour avoir accès à des programmes de mobilité pour les jeunes. Je pense à Erasmus, au service volontaire européen, aux stages. Tout ça, en fait, c'est possible maintenant d'aller vers des guichets d'information. Il y a Europe Direct, il y a d'autres portes d'entrée, mais disons Europe Direct est une porte d'entrée, première, qui est vraiment disponible pour le citoyen. Et puis après, il y a énormément de programmes qui se déclinent et qui sont accessibles pour tout âge. Et je pense notamment pour cette question de l'identité, des valeurs. Il n'y a rien de tel en fait que de vivre ce que ça veut dire, cette, la richesse d'être européen, en rencontrant d'autres Européens. Et typiquement, les activités qui se font par le biais d'échanges de villes, par le biais des jumelages, par le biais du volontariat, d'études dans un autre pays, c'est vraiment ce qui construit l'identité européenne. Et aller parler avec n'importe quelle personne, un jeune, il y en a des millions qui sont partis dans le cadre d'Erasmus, qui ont fait cette expérience-là, ils en reviennent changés. Ils en reviennent complètement ouverts à cette compréhension de ce que ça veut dire d'être multinational et d'avoir toutes ces différences culturelles à portée de main, de parler d'autres langues. Voilà, c'est quelque chose qui est irremplaçable et en fait, dans le monde, on est un peu les seuls à l'avoir. C'est vraiment unique le continent européen et ce qui se passe en Europe.
J'en reviens au sujet de cette émission, c'est-à-dire comment les citoyens perçoivent l'Europe. Alors vous, vous allez apparemment tous des Européens convaincus, Jean-Marie.
On vient d'entendre la vision positive de l'Europe, mais c'est souvent pas celle-là qui ressort, et on l'a bien vu dans le micro-trottoir. C'est que ce qui ressort surtout, c'est qu'on a vraiment le sentiment que l'Europe est au service d'une politique économique libérale et qu'il y a tous les règlements qui tombent, semblent aller dans ce sens. Et que quelque part, cette politique libérale ne semble pas apporter les effets bénéfiques qu'elle promet. Et je pense qu'il y a une frustration de la part de tous les Européens à ce niveau-là.
Tous les Européens non libéraux.
Je pense que même les libéraux ont l'impression qu'on leur a promis un meilleur bien-être de fait d'un marché libre, quelque chose de déréglementé, une concurrence ouverte qui permettrait d'apporter quelque chose de plus stable et qu'en fait les faits sont là pour contredire un peu ces promesses.
Je veux réagir par rapport à ce que Louis disait tout à l'heure sur le fait de dire qu'on était tous pro-européens. Moi, personnellement, ce n'est pas du tout mon cas. J'essaie simplement d'être réaliste et juste avec le rôle de l'Europe, en fait, en tant qu'entrepreneur, vu de ma facette, en fait. Et sur les points qui étaient relevés dans le micro-trottoir, je ne suis pas d'accord avec ce qui a été dit. Par contre, il est évident qu'il y a des problématiques. Il y a une problématique sur l'immigration avec le traité de Schengen. On ouvre les frontières avant de s'être doté des outils, y compris de régulation économique, notamment sur une masse salariale équivalente pour la base des salaires, ce qui fait que forcément on va déclencher des concurrences entre corporations. Il y a d'autres problématiques qui, à mon sens, sont extrêmement importantes, comme le traité transatlantique, ou par exemple les OGM qui viennent d'être agréés par l'Europe, qui sont passés comme une lettre à la poste avec 9 nouveaux produits sur lesquels effectivement qui vont passer comme ça d'une façon très très simple et sur lesquels il n'y a pas vraiment de réaction ou de concertation parce qu'il y a vraiment une pression des lobbies et de la mondialisation. Ça, c'est une évidence. Il suffit de voir les lobbies à Bruxelles à la porte en train d'attendre ou de faire la manche pour quémander un contact avec les députés. Ça, c'est une évidence aussi. Donc tout n'est pas positif. C'est une aventure qui est à construire. Mais est-ce qu'on décide de la laisser construire par des technocrates, ce qui peut effectivement être une certaine perception au travers de tout ce que j'ai entendu sur le micro-trottoir, ou est-ce qu'on décide de la co-construire et de faire des propositions et de s'emparer des outils existants en essayant de démontrer sur le terrain qu'effectivement ils peuvent être positifs? Ça, c'est une question que je pose effectivement de façon très ouverte.
Mais quand on aurait envie d'agir, mais je prends l'exemple des tarifs réglementés d'EDF hein, qui s'arrêtent à la fin de l'année pour les entreprises, les gros consommateurs. On n'a rien à dire. C'est quelque chose d'imposé. Et au nom de quoi? Au nom de l'ouverture des marchés, au nom de la lutte contre les monopoles. Bon, d'accord, l'Europe lutte contre les monopoles d'État, on va dire. Mais on constate qu'à côté de ça, il se crée des monopoles privés, mais de plus en plus gros. Et bon, ben, il semble que ce système économique libéral, il est un peu boiteux.
Je suis d'accord, mais l'Europe essaie de répondre, je pense, de ma perception en tout cas, à ces deux axes. C'est-à-dire qu'elle essaie de répondre à une mondialisation qui met la pression, et effectivement c'est la porte ouverte au libéralisme et souvent un petit peu à n'importe quoi, parce que ça met en péril en fait plein d'activités économiques ou plein simplement d'accessibilité à un ensemble de services. Mais en même temps, elle donne le pendant, parce que l'Europe est constituée de différentes sensibilités en développement ou en aidant à développer la filière circuit court, par exemple, ou la mise en place d'ateliers de transformation sur les territoires. Donc on sent qu'il y a ces deux pendants. Mais là encore, il n'y a pas de véritable politique déclinée. C'est-à-dire que c'est la pression des lobbies qui fait que de temps en temps, il y a une décision qui sort. Et ça, c'est cette pression qu'il faudrait pouvoir maîtriser.
Est-ce que le libéralisme est causé par l'Europe?
C'est une très bonne question.
Je pense que les pays qui sont hors Europe sont complètement livrés encore plus sur les réglementations environnementales et sociales au libre marché et au capitalisme total. Je vois ce qui se passe avec les gaz de schiste aux États-Unis ou au Canada, sur le pétrole, sur ce qui se passe dans quasiment toute l'Afrique, sur les mines, sur l'uranium, sur la potasse, sur... Les pays comme la Tunisie, le Maroc ou l'Algérie sont pas loin de chez nous. Ils sont pas dans la communauté européenne. Qu'est-ce qui se passe au niveau du libéralisme et au niveau des conditions environnementales et sociales? Ce serait une erreur de faire croire aux citoyens que c'est parce qu'il y a l'Europe que le libéralisme va à tout craint. L'Europe n'est pas efficace, encore une fois, pour colmater les brèches de toute cette avancée de la mondialisation. Mais petit à petit, par nos députés européens, par aussi le lobbying associatif, ça existe aussi au niveau de Bruxelles, par des réglementations, je pense à REACH sur les produits chimiques par exemple, arrivent petit à petit, ou des réglementations très ponctuelles sur les Natura 2000, sur la chasse, sur des choses où la France n'est pas fameuse en la matière, où elle nous fait avancer au niveau sociétal. Donc je pense que c'est, encore une fois, c'est un défaut d'Europe, de capacité à décliner une vraie politique sociale et environnementale qui fait défaut à l'Europe, mais on ne peut pas lui imputer une déclinaison du capitalisme plus qu'ailleurs, je pense que ce serait erroné.
En fait, la France, après la guerre, s'était organisée ou réorganisée et avait relancé son économie, entre autres en structurant des services publics extrêmement forts. Et c'est ceux-là qui aujourd'hui sont remis en question par la réglementation européenne. En fait, moi, je perçois l'Europe comme une plateforme minimum commune. C'est-à-dire que, comme le disait Anna tout à l'heure, ce sont nos représentants de chacun de nos États qui sont là, qui parlent entre eux et qui finalement prennent des décisions. Et on ne prend pas des décisions, je dirais, qui pourraient concerner 100% des personnes, mais on prend les décisions qui arrivent à un consensus. Donc c'est loin d'être, je dirais, complètement satisfaisant. En même temps... Moi, j'ai eu à participer par le passé à des réunions d'élus femmes de tous les pays européens. Et à la fois, nous avons une culture commune et en même temps, nous sommes chacun très différents. Et je l'avais constaté à ce moment-là, on pouvait aborder un sujet, je dirais, quel qu'il soit, la représentation des femmes en politique, par exemple. Et chaque pays a une situation différente, a une perception différente des choses. Donc, il faut déjà arriver avant toute décision et pour élaborer un texte commun, c'est forcément un texte sur lequel on est d'accord sur le minimum et pas sur le maximum. C'est comme ça, mais parce qu'il faudra des années à arriver à se mettre d'accord sur un maximum commun. Mais c'est normal, c'est ce qu'on appelle la construction d'une identité commune. C'est complètement normal. Mais il faut être patient et surtout il faut être persévérant et il faut être tenace. Parce que la réalité, c'est aussi que l'Europe est un espace de démocratie et un espace de paix. Et que ça n'a pas de prix. Et qu'aujourd'hui, on peut ne pas être satisfait de l'économie, la manière dont c'est développé. Et en même temps, quand on regarde plus loin, quand on regarde les pays qui aspirent à rentrer dans l'Europe, ils le font parce qu'ils veulent aspirer à un certain niveau de vie. Et puis aussi parce qu'ils espèrent la stabilité et la paix pour eux. Et ça, je pense que c'est très important. Je voudrais donner l'exemple aussi de la procédure pour nos régions rurales, la procédure LEADER qui existe donc depuis, je ne sais pas, une vingtaine d'années à peu près, hein, qui est donc un financement européen. L'intérêt que je vois pour cet exemple précis, hein, c'est qu'il faut bâtir une programmation, c'est-à-dire qu'elle n'est pas imposée par l'Europe, mais elle est vraiment construite à partir du territoire et de la volonté de chaque territoire rural qui anime l'ensemble des acteurs de son territoire pour faire sortir un projet dit projet LEADER. Et c'est bien le territoire qui choisit ce projet-là, qui sera financé par l'Europe. Et j'attire l'attention là-dessus. Alors certes, la contrepartie, c'est quand même une complexité administrative évidente. Hein, pour obtenir les financements, il faut beaucoup de papiers et il faut des personnes pour faire ces papiers. Et derrière, il y a des contrôles, c'est vrai. Voilà. Donc il y a, je dirais, l'avantage et l'inconvénient. C'est à nous de choisir, de toute façon, chaque fois. Hein, si oui ou non, on se lance sur ce type de procédure, si on en voit l'intérêt. Pour moi, l'intérêt, c'est que c'est un levier, non seulement pour certains projets, parce que c'est un apport financier non négligeable, qui n'est pas à 100%, mais qui n'est pas négligeable. Et d'autre part, ça peut être un levier pour réfléchir à des données plus larges au niveau d'un projet de territoire, par exemple.
Ça, c'est la perception qu'en ont, comment dire, les personnes un peu au-dessus. Sur le trottoir, on a bien vu que leader, c'est quoi il n'en sait rien. Hein. Se dire qu'il y a un levier que l'Europe met au service de tous pour orienter des politiques, non. Le citoyen, ce qu'il voit, c'est que c'est l'hôpital qui a moins de moyens, c'est les autoroutes qui sont privatisées, c'est EDF qui devient privatisé. Enfin, voilà. Donc, comme je suis un peu d'accord avec ce que disait Claude, c'est pas l'Europe qui a un problème, c'est plutôt la politique libérale à qui l'Europe est au service. On a l'impression qu'on reproche à l'Europe quelque chose qui n'est pas vraiment d'elle, mais dont elle véhicule les inconvénients.
Allez, pour aérer ce sujet, on va écouter une magnifique chanson d'Adam Green qui s'appelle Country Road.
Back in the summer of 91, an angel with a lizard's tongue was scheming for a wholly broken nose. Late to every class of men, sprung out from the sparkling sands, leaning on the cold electric stove, on a country road I swerved to the side, trying to avoid a country bumpkin. Everyone's in line to meet with the man blatantly inspired his generation. When they shake his hand and their fingers explode, breaking both our necks by the tips of our toes, then they turn to me, 'cause you died, I suppose. But I can't seem to glance fast enough to be sure. Back to summer days, cold hands on the beach, memories of thrills designed to please you. Down the fragrant path I stray towards the bath, suddenly I live to learn to feed you. Down on bended knee, where I've been for a while, set the record straight in the old-fashioned style. Never took too much, though I should have made more. You are still my friend, though you were not before.
Vous êtes toujours en train d'écouter une émission sur l'Europe sur RDWA 107.5 FM et www.rdwa.fr avec Isabelle, Anna, Claude, Franck et Jean-Marie. Et en parlant de REACH, tout à l'heure on parlait de REACH, la mesure qu'a pris l'Europe pour protéger les consommateurs des produits chimiques en faisant porter la responsabilité aux industriels de vérifier et d'évaluer la dangerosité de leurs produits. Ça partait d'une très bonne initiative et là c'est un bel exemple de détournement par les lobbies de sa fonction initiale. En particulier, on pourrait donner l'exemple d'un produit local, agricole, traditionnel de notre territoire, transformé en produit chimique, la lavande.
Mais oui, c'est un travail fin des lobbies. Quand on impose aux lobbies de la chimie de passer dans les fourches codines de la réglementation européenne en leur disant « il faut tant d'années d'expérimentation, tant d'expérience pour vous mettre vos produits sur le marché », les lobbies ils disent « écoutez, c'est sympa ce que vous dites, mais il y a des tas de produits qui se promènent dans la nature, du purin d'ortie en passant par l'essence de lavande, qui n'ont jamais fait l'objet de protocoles et pourtant il y a des molécules chimiques dans ces produits-là. Donc vous faites passer ou tout le monde ou personne. » Et donc on se retrouve par le biais des lobbies, par la force des lobbies, à faire passer des produits naturels dans les fourches codines de la réglementation et de la stricte expérimentation européenne. La réponse est simple, c'est une mobilisation des acteurs de la filière lavande. C'est d'ailleurs ce qu'avait proposé ici même Michel Rivasi quand elle avait été mise en face de ce problème. Les organisations syndicales et paysannes sont à même de faire aussi du lobbying sur ce produit-là, ce qui avait d'ailleurs marché sur le purin d'ortie. Donc, il ne faut pas oublier l'action citoyenne en la matière. Et là, on a la preuve que ça peut être efficace.
L'Europe peut être sensible à ces mobilisations citoyennes ?
L'Europe peut être sensible jusqu'à une certaine mesure, parce qu'on n'arrive pas à contrebalancer les 30 000 lobbies qui sont bien financés et qui ont une capacité d'influence au niveau de la communication à Bruxelles. Une réglementation sur les lobbies serait certainement déjà une première démarche qui soit identifiée, visible, voir comment ils utilisent l'argent pour la communication. Après, peut-être qu'il y a une limitation des lobbies. Moi, personnellement, je ne suis pas pour les lobbies. Je pense que ça devrait être interdit. On se tourne vers une autre orientation où on dit plutôt qu'il faudrait les réglementer. Pourquoi pas ? Mais en tout cas, il y a un défaut de réglementation et de contrôle de ces lobbies. C'est une évidence.
Moi, je voulais juste réagir par rapport à ce que tu disais, Jean-Marie. C'était aussi que ce qu'on a entendu dans le micro-trottoir, c'est ce que les gens répètent de ce qu'ils entendent dans les médias. Mmh. Et en fait, c'est une information qui arrive, qui est véhiculée par les médias, qui, eux, voilà, pour une raison ou une autre, font des simplifications, tout comme le gouvernement français fait des simplifications en mettant facilement sur le dos de Bruxelles des choses qui, finalement, eux-mêmes ont décidé, puisqu'encore une fois, c'est eux qui sont aux manettes des décisions qui sont prises. Donc ce qu'on entend dans la rue, c'est souvent aussi ce qu'on entend dans les médias, parce que c'est l'information qui arrive. Et encore une fois, donc on retourne à la question de départ, il manque de la communication pour que l'information juste, ou en tout cas complète, arrive sur le territoire et que justement les gens puissent se faire une vraie idée de ce que sont les choses. Parce que par exemple, simplement de savoir tout ce qui est autour de nous en termes d'infrastructures, de projets, d'aide au commerce, d'aide aux associations, tout ce qui est financé, cofinancé par l'Europe, ça ne se voit pas, on ne le voit pas. Où est-ce qu'on voit un panneau ? Cette entreprise a reçu un financement de l'Union européenne, cette école a été financée très rarement. Donc du coup, si des gens envoyaient ce genre d'informations, si les acteurs locaux jouaient le jeu et donc communiquaient là-dessus et disaient « oui, mais nous, on a fait cette école ou cet hôpital est encore là parce que justement, on a reçu une aide », à ce moment-là, peut-être le sentiment de la personne du micro-trottoir changerait.
Nous, on le fait, mais on n'a pas une visibilité internationale, donc forcément, ça n'a pas un impact trop, trop fort. Mais c'était important ce qu'Anna disait, dans le sens où la responsabilité des politiques, moi, je trouve qu'elle est vraiment prépondérante dedans, parce qu'on prenait l'exemple, effectivement, de ce qu'ils annoncent dans les médias ou de la façon dont ils justifient que le problème vient de l'Europe. C'est toujours la faute à Bruxelles, donc c'est un petit peu facile, que ce soit un gouvernement actuel ou précédent. Hein. Quand il y a eu l'histoire des référendums, la démonstration, elle est évidente. C'est-à-dire qu'il y a un après Maastricht, on fait un référendum. Ce référendum, il est voté massivement non, et au final, on décide de faire quand même. C'est-à-dire qu'on reproche ensuite aux citoyens de ne pas venir voter démocratiquement alors qu'on n'a pas tenu compte de son vote démocratique. C'était une maladresse de faire ce référendum. Mais là, en l'occurrence, c'est dire on se moque de la démocratie, quoi. Donc c'est aussi logique que quelque part le citoyen lambda ne sache plus trop où il en est, quoi. Et du coup, maintenant, on se pose la question au lieu de savoir si on ne va pas rendre le vote obligatoire. Ça revient dans le débat. Voilà, il faudrait peut-être plutôt le rendre attractif.
Ce que disait Anna est vraiment fondamental. Par exemple, je ne sais pas, mais sur les 400 agriculteurs qu'il y a dans le Diois, il y en a peut-être 300. Tous ceux qui ne font pas du maraîchage touchent des subventions européennes. Ils ne s'en vantent pas. Ils sont même souvent contre l'Europe. Et aujourd'hui, un éleveur de moutons, à peu près, dans le Diois, entre 20 et 80 000 euros, il touche de subventions par an pour son élevage. C'est quand même gonflé d'aller gueuler après l'Europe. Donc il y a un moment, il y a un défaut
d'honnêteté,
oui, tu peux le dire. Après, il y a des centres comme les centres de formation, des entreprises, il y a des multitudes de choses qui sont déclinées par les fonds leaders, par exemple, qui sont hyper intéressants, mais il y a peu de communication. Les subventions de la région Rhône-Alpes qui arrivent sur ce territoire 9 fois sur 10, elles viennent quand même de l'Europe, parfois ceux du Conseil général aussi. Et la communauté de communes qui n'a pas de fonds propres, ce sont des financements qui viennent souvent de l'Europe aussi, par d'autres. Donc je crois qu'il y a une strate où la communication, comme quoi l'argent vient de l'Europe, ne passe plus. En définitive, on ne sait pas ce qui se passe, d'où ça vient ces financements.
Il y a peut-être une tendance de la part de nos élus de dire quand c'est bien, c'est grâce à nous, et quand c'est pas bien, c'est la faute à l'Europe.
Tu m'enlèves les mots de la bouche.
C'est un bon résumé.
La question de l'éloignement, je pense qu'il faut se la poser peut-être par rapport à l'Europe, mais par rapport à d'autres institutions, y compris les nôtres, enfin, au niveau de notre pays. Je pense qu'aujourd'hui, l'intercommunalité peut paraître éloignée, la région peut paraître éloignée. On sait que par la réforme territoriale, on va donc vers des regroupements, donc un canton qui est devenu beaucoup plus grand, une région qui va fusionner, qui va devenir Rhône-Alpes-Auvergne, des intercommunalités qui, partout en France, deviennent de grosses intercommunalités. Donc, il serait intéressant qu'on réfléchisse et qu'on trouve des propositions d'un nouveau mode de fonctionnement. Parce que pour moi, la question se pose pratiquement de la même manière. Je dirais que ce soit à l'échelle européenne ou que ce soit à l'échelle d'une région française aujourd'hui ou d'une intercommunalité qui doit, par la réforme territoriale, devenir beaucoup plus grande qu'avant. Quel lien allons-nous pouvoir faire demain et comment allons-nous les faire pour que les citoyens puissent s'exprimer et être entendus, pour que les élus soient peut-être au suffrage universel direct, mais pour qu'ils aient aussi des liens permanents avec les populations. Finalement, pour moi, la question se pose vraiment à toutes ces échelles. Alors, selon les échelles, on ne peut sans doute pas y répondre de la même manière, mais je pense qu'il faut qu'on invente de nouveaux modes de fonctionnement. Voilà. Sinon, l'éloignement va être tel que ça sera une rupture.
Deux fois, on a rasé quasiment l'Europe, d'Oradour à Dresde. Il y a un moment, les conditions depuis 70 ans de la paix sont des conditions d'un bien-vivre sur ce continent, d'une économie qui est assez florissante quand même. Les pays européens sont parmi les plus riches du monde avec des conditions de vie les meilleures du monde. Ça ne veut pas dire que tout est idéal hein, en matière de santé et en matière d'éducation. C'était pointé, il y a beaucoup à faire. Mais il n'empêche que c'est quand même 70 ans de paix qui fait que toi, moi, Jean-Marie, on ne s'est pas retrouvés dans les tranchées à Verdun ou à la porte de Brandebourg. C'est la première génération qui n'a pas connu les exterminations. C'est quand même quelque chose à avoir en mémoire. Si nos anciens étaient là, nos grands-parents, ils nous rappelleraient ce qu'a été cette période-là. Ça ne fait pas partie éminemment de l'économie, mais c'est les conditions d'une bonne marche économique, de ne pas détruire complètement son territoire en permanence. Peut-être que ce n'est pas de l'intérêt des lobbies qui le reconstruisent chaque fois, mais en tout cas, pour le bien-vivre de la population, ça fait partie d'une bonne économie.
Alors, si on ne peut pas reprocher à l'Europe le libéralisme, on peut affecter, par contre, la paix à l'Europe.
Oui, parce que souvent, on nous dit, quand on dit ça, on dit « oui, mais regardez ce qui s'est passé ». Ben, oui, justement, depuis 70 ans, que ce soit dans la communauté européenne ou dans l'Union européenne, ou même depuis 50, le marché de l'acier et du charbon, il n'y a pas eu de guerre en Europe. Les guerres, elles sont très ciblées dans les Balkans, qui ne faisaient pas partie de l'Union européenne, et aujourd'hui en Ukraine. Donc, on ne sait pas si la Bosnie-Herzégovine et la Serbie avaient fait partie de l'Europe, s'il y aurait eu le même scénario, et si l'Ukraine avait fait partie de l'Union européenne, il y aurait eu le même scénario. En tout cas, moi, je pense que le rôle de l'Europe est un rôle de stabilisateur, est un rôle qui insuffle de la démocratie, et qu'on n'en serait pas à la situation ukrainienne, et on ne serait pas passé par la guerre des Balkans s'il y avait eu un plus d'Europe. C'est un défaut d'Europe, ces problèmes de guerre.
D'ailleurs, en rebondissant sur ce que tu dis, on n'a qu'à voir justement qui c'est qui aime l'Europe, disons de manière ostensible et qui se revendique européen. C'est justement des pays comme l'Ukraine qui demandent d'entrer dans l'Europe et qui voient l'idée d'Europe comme attractive et enviable. Et nous qui sommes dedans depuis des années maintenant et qui sommes complètement désabusés de cette idée-là, mais sans se rendre compte qu'en fait, quand on est à l'extérieur, ben, ça apparaît comme quand même un Eldorado. Bon, après, du coup, il y a aussi les problèmes liés à l'immigration et à la difficulté d'accueillir tout le monde, ça c'est encore un autre sujet.
Moi je mettrais une touche peut-être un petit peu moins optimiste. Des fois quand je regarde l'Ukraine, je me demande si les Ukrainiens qui rêvent d'Europe, c'est pas ceux qui rêvent du libéralisme de l'Europe. Et peut-être qu'ils n'ont pas encore perçu le volet négatif de ce libéralisme et que du coup ça les attire. Il y a ce côté, pourquoi est-ce qu'on veut l'Europe? Si on veut l'Europe pour la politique économique libérale, c'est dommage. Si on a envie de l'Europe parce qu'en se regroupant, on peut mieux coopérer et avoir un petit peu moins de compétition acharnée et se taper un peu moins dessus, ben oui, ok, super quoi.
Il est quand même difficile, s'il n'y a pas eu de guerre depuis 70 ans, de ne pas devenir un petit peu bedonnant, voire enfant gâté. Comment se rendre compte de l'intérêt de quelque chose que les combats antérieurs, mais oubliés, ont rendu possible?
Les plus gros combats, c'est de construire la paix. Hein. Je ne sais pas si vous avez été amené dans votre couple, dans votre association, dans votre conseil municipal, à vous battre contre les autres, mais le plus dur à construire, c'est la paix, c'est la fraternité. Donc le combat, il est immense pour construire cette paix, cette fraternité. C'est un super challenge. Et quand on pense en plus à l'égalité et à la justice, c'est un deuxième challenge qui est énorme. Donc de ce côté-là, on peut se retrousser les manches et tout est à faire.
Anna, tu fais partie du CIED, toi, hein, je l'ai dit en introduction. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour promouvoir cette Europe et en tout cas le faire accepter par les citoyens? Vous faites des actions concrètement?
Oui, concrètement, c'est un centre d'information déjà pour répondre à toutes les questions et orienter vers les interlocuteurs, donc pouvoir vraiment clarifier le schéma de qui fait quoi en matière d'Europe sur le territoire. C'est un centre de documentation, donc là, c'est très riche pour les enseignants, les personnes qui ont besoin de documentation sur l'Union européenne dans tous les domaines, dans toutes les langues d'ailleurs, et puis également des animations scolaires, donc aller dans les écoles, expliquer ce que ça veut dire la citoyenneté européenne, le multilinguisme, l'histoire de la construction européenne, et puis pour les plus grands, sur des politiques spécifiques, sur la santé, sur l'agriculture, et puis après aussi des événements grand public, des débats publics sur la thématique européenne. Là, le 13 mai, nous avons une journée porte ouverte, le 19 mai, nous faisons quelque chose autour de la coopération et la solidarité internationale, parce que l'Europe est le premier pourvoyeur de fonds en matière d'aide au développement. Il y a le 28 mai une session à Valence sur justement le traité transatlantique pour comprendre mieux de quoi il s'agit. Et donc il y aura un représentant américain, un représentant de la Commission pour comprendre où on en est et qu'est-ce que ça veut dire pour les deux parties. Le 6 juin, on fait quelque chose autour des initiatives citoyennes et des comités jumelages. Donc c'est voilà, des petits événements, des fois des tables rondes, des fois des journées entières d'animation.
Et est-ce que tu as pu constater un espèce de raidissement de l'opinion publique quant à l'Europe, ou est-ce que c'est une découverte avec ce petit micro-trottoir ?
Non, ce n'est pas une découverte. C'est simplement, en effet, une tendance qui s'accentue depuis des années maintenant et qui est vraiment, je pense, due au contexte global. Ça va bien au-delà de l'Europe et c'est, comme certains l'ont souligné dans le micro-trottoir, c'est une difficulté pour les gens liée à l'emploi, liée à la vie quotidienne. C'est une atmosphère nationale de protectionnisme, d'envie de se protéger parce qu'on se sent menacé. Et donc, du coup, on se sent menacé par plusieurs raisons, le libéralisme, le manque d'emploi. Et donc, du coup, on se dit, ne voyons pas plus loin que notre petit village, parce que sinon, on va avoir des problèmes. Et donc, du coup, forcément, cette vision, non seulement nationale, mais même au-delà de la nation, ça devient très difficile à avoir. Alors que, justement, ce raidissement et ce repli sur soi-même n'aidera certainement en rien. Enfin, ne peut pas aider. On l'a vu, justement, dans des passages historiques malheureux où les replis nationalistes ont amené que à pire.
Moi, j'avais envie de revenir sur ce que disait Claude tout à l'heure, quand il parlait de la paix et de l'égalité. C'est vrai que construire la paix, c'est quelque chose, c'est un challenge, c'est quelque chose de pas simple, mais ça suffit pas. Parce que si on a construit la paix et qu'on s'intéresse pas à l'égalité et qu'on se satisfait de voir les inégalités monter, la paix, elle dure pas longtemps. Et en ce moment, ce qui se passe, on se rend bien compte que l'inégalité sociale est quelque chose d'assez criant en Europe et que c'est quelque chose qui va croissant. Et qu'on aimerait bien que nos politiques s'occupent un peu de ça. La politique libérale donne l'impression de laisser libre cours à l'augmentation de ces inégalités. Et ça, c'est un gros, gros problème. Et en plus, il y a le sentiment de manque de continuité dans la politique européenne. Là, le côté agricole est quand même quelque chose d'assez criant. L'Europe a d'abord favorisé une production importante, puis après elle s'est rendue compte que gérer les surplus c'était compliqué, donc on a essayé de limiter, on prend le lait, on instaurait des quotas pour avoir une meilleure régulation, avoir une production qui soit au plus près de la demande, ça semble être intelligent, et puis voilà que maintenant on arrive à une suppression des quotas laitiers, et pourquoi? Et si on regarde cette déréglementation avec l'œil de la politique libérale, on comprend. Oui, les quotas étaient une entrave à un libre marché. Mais voilà, est-ce que pour instaurer un libre marché, on accepte de mettre en danger des équilibres ou de mettre en danger une production qui colle à la demande?
C'est ce qui va poser problème, je pense, justement, au niveau de la négociation du traité transatlantique.
Pareil.
Parce que la négociation, elle est âpre, elle est extrêmement compliquée.
Qu'est-ce qui nous intéresse? Est-ce que c'est la libéralisation, la suppression de tout ce qui entrave le libre marché? Ou est-ce qu'on est plutôt intéressé à plus de justice sociale et quelque chose de plus équilibré où chacun puisse s'épanouir?
Alors, toutes ces remarques, ce qu'elle m'évoque moi à l'instant T, c'est on a un fonctionnement démocratique qui est imparfait. Malheureusement, on n'a pas encore trouvé mieux que la démocratie pour l'instant. Peut-être que le chantier de demain, c'est justement d'ouvrir quelque chose pour réfléchir à un autre possible, à une dimension encore supplémentaire de la démocratie. Effectivement, la notion de paix, la notion d'égalité, la notion de fraternité ne soient pas que des mots, mais que ce soit vraiment des actions construites. Et je pense que l'Europe est un bon échelon, en fait, pour donner ce climat de protection de par la paix qu'elle confère, mais que c'est d'abord sur notre territoire qu'on a commencé à construire ce genre de choses.
Réfléchir, comme disait Isabelle tout à l'heure, à une gouvernance digne de ce nom qui associe les gens, tout en permettant aussi des projets qui dépassent le strict niveau individuel, qui offrent un peu de hauteur. Parce que des fois, on peut ne pas comprendre pourquoi de grands projets sont nécessaires sans vouloir les bloquer pour autant. Avez-vous d'autres réflexions sur la perception de l'Europe, Jean Damoiseau et Damoiselle ?
L'idée que se font les pays qui sont amenés à choisir de rentrer ou de ne pas rentrer dans l'Europe. Je me rappelle, il y a quelques années, quand la Grèce ne faisait pas partie de l'Europe, ils disaient quand même, vous voulez qu'on va rentrer dans l'Europe, vous êtes quand même gonflés, et nous, l'Europe, elle est née chez nous. Nous sommes l'Europe. Et aujourd'hui, les Ukrainiens disent, nous avons toujours fait partie de l'Europe. Qu'est-ce que vous voulez qu'on intègre l'Europe ? Nous sommes l'Europe. Il y a un moment, il faut avoir cette réflexion. Ce n'est pas la peine de dire, ils vont rentrer dans l'Europe. On est l'Europe. On est l'Europe depuis 2000 ans, depuis Alexandre le Grand, en passant par la Grèce et l'Empire romain. On est l'Europe. Donc aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, d'une certaine manière, à part qu'on construit une démocratie, on construit une fraternité, on construit une justice, on espère une justice sociale, pour que ce soit un lieu du bien-vivre. Donc c'est ça qui est peut-être fondamental. Et je pense que les relations humaines que draine cette conception. Tu parlais d'Erasmus à bon escient, mais aujourd'hui, il y a des quantités de jeunes de toute l'Europe qui vivent ensemble. J'ai une fille qui vit en Hollande, j'ai un autre garçon qui vit à l'autre bout de la planète. Aujourd'hui, on est sur un concept où la fraternité, dans nos familles, elle se construit dans cet espace-là. Et je pense que si les politiques n'arrivent pas à se mettre d'accord sur une vision et sur une gouvernance européenne, j'espère que nos enfants, les Européens, par la construction de liens autres, associatifs, familiaux, politiques, arriveront à construire une Europe de la solidarité, de la fraternité, de la paix et de la justice sociale.
Moi, ce que je souhaite, c'est que quand on ne voit pas l'Europe comme une façon d'être ensemble plus fort contre les autres. On l'a entendu, hein, ça faisait partie d'un des témoignages. C'est quand même très réducteur et c'est quelque chose qui est un peu dommage comme vision. C'est assez inquiétant. Ouais.
Oui, ça serait être mieux ensemble. Et mieux, ce n'est pas la possibilité de surconsommer. Hein, mais c'est sans doute une notion d'équilibre et en Europe et par rapport au reste du monde. Voilà, mais nous ne sommes que des humains avec tout ce qui nous caractérise aussi.
On a parlé de l'échelon européen, comme quoi c'est un échelon intéressant. Il est évident, moi je reprends l'expérience de Mitterrand en 1981 qui a décidé envers et contre tous de se lancer dans une relance économique alors que le monde entier était en période de décroissance et il s'est trouvé dépourvu quand la bise est venue. Même l'Europe ne peut pas toute seule changer le libéralisme. Il faudrait que ça soit peut-être global, un gouvernement mondial, encore un échelon supplémentaire pour régler le problème.
Si, c'est ici. C'est ici qu'on va découvrir que la croissance ne fait pas le bonheur. Parce que dans les pays du Sud, on a encore des espoirs de croissance. On a des espoirs d'augmentation de son revenu, d'augmentation de sa consommation, et que le bonheur va passer par la consommation de biens matériels. En Europe, je ne dis pas qu'on a fait le tour, parce qu'il y a encore des tas de milieux qui sont encore sur cette conception-là. Mais je pense qu'on avait surconsommé, on a eu des salaires surélevés en Europe grâce au colonialisme et à la prédation des matières premières sur l'ensemble de la planète. Et qu'on sera le premier continent à expérimenter la décroissance, ou en tout cas une façon de vivre bien sans consommer. Ou en tout cas avec une, je ne sais pas si on appellera ça une déconsommation, mais en tout cas de se satisfaire de choses immatérielles beaucoup plus facilement qu'ailleurs, parce qu'on a eu l'expérience de la surconsommation. Et donc je pense que ce cheminement-là, je ne dis pas qu'il est exemplaire, mais il pourra être regardé par d'autres territoires, mieux qu'ailleurs, parce qu'ailleurs on est encore dans les processus d'une vision du progrès qui passe par la consommation.
J'avais entendu une fois une sociologue raconter que de son expérience, le fait de moins consommer est devenu quelque chose de vertueux dans beaucoup de citoyens. Et ça, c'est quelque chose d'assez encourageant. Parce que là où on peut attendre l'Europe, c'est au niveau environnemental, c'est au niveau climat. Ça ne sert à rien qu'un pays comme la France s'intéresse au problème du CO2 dans l'atmosphère. L'échelon est trop petit. On peut espérer que l'Europe soit un échelon un peu plus pertinent. L'échelon mondial serait encore mieux, mais bon, il ne faut pas vouloir aller trop vite. Et effectivement, en Europe, on a déjà bien consommé, on a déjà bien fait l'expérience de la consommation, on en voit bien les conséquences, on est conscient des conséquences au niveau pollution, mais aussi au niveau santé, au niveau limite des ressources, et que du coup, ben, on a peut-être, l'Europe a un rôle moteur au niveau mondial à jouer à ce niveau-là. Et c'est vrai, quand on entend certains dirigeants politiques affirmer que nous ne voulons pas changer de mode de vie, d'abord, qui c'est le « nous » ? Comment peut-il parler au nom de tout le monde en affirmant une chose comme ça ? C'est M. Sarkozy qui lançait ça. Mais pourquoi, si moi j'ai envie que les Européens changent de mode de vie et s'intéressent un peu plus à l'environnement, s'intéressent un peu plus au climat, s'intéressent un peu plus à l'égalité sociale, au partage des richesses, enfin voilà, si, je pense que changer de mode de vie, c'est un challenge qui est intéressant et qui est, je pense, générateur de bonheur.
C'est tellement bien dit que j'en reste bouche bée et quoi. Et je vous remercie, braves gens, d'être venus. Donc Isabelle, Claude, Anna, Jean-Marie et Franck, d'être passés pour parler de la perception des citoyens et de vous-même de l'Europe. On n'a sûrement pas réglé le problème aujourd'hui et effectivement, c'est un long travail qui nous attend.
Merci.
Merci à la radio.
Merci, au revoir.
Merci à toi.